Juste vous situer un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas depuis 20 ans, parce que c'est une minorité d'entre vous qui nous connaissez depuis 20 ans. Est-ce que tu peux mettre le... Voilà, regardez-moi ce beau pays. Je l'ai entouré en rouge exprès pour quand même dire que ça existe encore, cette Belgique. J'ai marqué avec un point rouge tout à fait à l'est de cette Belgique. Le coin d'où je viens, c'est une région rurale dans un petit coin qui est germanophone. Donc j'ai parlé l'allemand jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, j'ai parlé français à partir de 13 ans. Et puis j'ai né de Liège. Voilà, un vrai bouchon de Liège. Voilà, elle vient de cette région et nous nous sommes donc rencontrés à un moment donné que je vous raconterai plus tard. Donc ça, c'est la situation. Voilà, juste rappeler juste mon parcours. Donc, après mes études d'ingénieur et l'armée que j'ai fait pendant une année, je suis parti à l'école biblique. Donc, le gros point rouge qui se situe sur Kolding, c'est à 100 km environ, un peu moins, de la frontière allemande, pour cette formation biblique qui a été un grand point qui a vraiment donné le changement dans ma vie, qui a apporté le vrai virage de ma vie. Ça a été lorsque, imaginez, mes parents sont simples agriculteurs. Mon père était artisan, encore en plus de notre ferme qu'on avait. Et puis, je suis l'aîné de 4 enfants. Mon père avait donc, bien sûr, misé aussi sur moi pour que je puisse réussir mes études. Je l'avais fait. Mais à la fin de mon diplôme, 5 ans d'études universitaires, tout laisser pour partir on ne sait où, ça a été quelque chose de dramatique pour eux. Ça a été quelque chose qui a mis tant et tant d'années pour qu'ils puissent comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Mais comme je vais vous le dire plus tard, lorsque on est dans un appel, on ne peut pas tout expliquer, on n'arrive pas à tout expliquer. Mon premier stage s'est effectué donc au Danemark, à Copenhague. En attendant, j'avais appris le danois et puis j'ai intégré l'église apostolique de Copenhague et je servais Dieu donc en 1982 là-bas, dans tous les secteurs qu'on m'avait proposés. Ensuite, on m'avait dit, il y a une église en Belgique qui peut accueillir un stagiaire, c'est là où il y a le point rouge, c'est-à-dire à Mons. Donc de 1982 à 84, j'ai été stagiaire à Mons. Et puis, il s'est fait qu'un jour, j'ai rassemblé les jeunes de toute cette région, et Jenny a eu la même idée au même moment, elle a rassemblé les jeunes de Liège, et les jeunes de Liège et les jeunes de Mons se sont rassemblés, et ce qui devait arriver est arrivé. Les deux responsables de jeunes se sont rencontrés et c'est là que nous nous sommes rencontrés en 1983 dans un camp de jeunesse. Mon travail principal, c'était le premier jour que je suis arrivé. On m'a dit, voilà, tu as la matinée pour ranger ta chambre, donc je logeais chez une famille chrétienne. Et l'après-midi, tu viens ici et tu vas faire du ciment et du béton. C'est la première chose que j'ai dû faire. Et puis j'ai dû démonter du vieux matériel, j'ai dû travailler avec mes mains pour avoir des... comme un ouvrier, c'était la première journée de mon stage. Deuxième journée de mon stage, on m'a dit, écoute, il n'y a pas de responsable de jeûne, c'est toi qui seras le responsable de jeûne. Le troisième jour de mon stage, on m'a dit, écoute, il n'y a personne qui dirige le groupe de chant ici, c'est toi qui vas le faire. Le quatrième jour, on m'a dit, écoute, nous avons commencé à faire une radio, à faire tourner une radio libre ici, c'est toi qui vas te faire tourner la radio libre. Et le cinquième jour, on m'a dit, écoute, il y a une camionnette qui appartient à l'église, et puis c'est toi qui vas conduire cette camionnette, et lorsqu'on aura besoin de toi, tu devras toujours véhiculer les gens. Donc avec ce programme en une semaine, donc vous imaginez bien que j'ai plus ou moins travaillé jour et nuit pour effectuer ce qu'on m'a demandé de faire. Donc c'est là que, effectivement, au bout de 2 ans, j'ai été relativement à l'aise avec toute cette technique radio. Les radios locales chrétiennes fleurissaient un peu partout à l'époque. Les ondes avaient été libérées en 1981 en France et en Belgique. Et la troisième, c'est que nous sommes partis sur appel pour aller en Corse. C'était uniquement pour faire tourner et être pionnier dans le travail de la radio libre, Radio Vie Nouvelle Corse, sur Ajaccio. Et nous sommes restés là de 1984 à 87. Les diapositives suivantes vous montrent que nous allions donc dans les montagnes, nous étions stationnés dans une maison en construction dans le vide sanitaire avec une pièce qui était blindée avec 2 portes de fer parce qu'en Corse, il peut y avoir des attentats. Mais on a appris avec le temps qu'on respectait les choses religieuses, donc on n'avait pas à craindre par rapport à la violence qui parfois était là aussi. Donc nous avons dans cette maison, à environ 700 mètres d'altitude dans les montagnes, pu rayonner sur tout le golfe d'Ajaccio avec cette radio qui a tourné de 1984 à 2007. Voilà. Après la Corse, se sont ouvertes 7 portes simultanément. 7 portes se sont ouvertes et nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons cherché la face de Dieu. Et les 7 possibilités, il y en avait 2 en Afrique, il y en avait 3 en Suisse, 1 en France et 1 en Belgique. Le Seigneur nous a conduits à l'église de réveil de Vevey. Donc à l'ère de Vevey, nous avons passé un temps formidable. Au bout de 12 ans, nous étions très très bien, mais un jour, un appel est arrivé. Et je vais laisser Jenny raconter ça.
Bonjour à chacun. L'été 1997, quand nous sommes rentrés de vacances, il y avait un message sur le répondeur. Et puis, c'était une voix que nous ne connaissions pas, mais vous la connaissez, cette voix. C'était Tony, qui est là ce matin et qui nous disait « Bonjour, Monsieur Zanzen, on voudrait vous rencontrer. » Et puis moi, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit « Écoute, moi, je crois que ça, c'est un appel pour Genève. » Et en effet, c'était un appel pour Genève. Pendant 2 ans, nous avons recherché vraiment la face de Dieu. Nous avons prié, nous avons cherché sa volonté. Nous avons aussi vu nos pères spirituels, M. Stalin, M. Unziker, et Dieu a aussi dû faire un travail, en tout cas dans ma vie. Parce que quand cet appel est arrivé, moi j'ai dit au Seigneur, « Mais Seigneur, tu as dû te tromper de personne. Moi, aller à Genève, mais c'est pas possible. » Et j'ai comme ça discuté avec le Seigneur et le Seigneur m'a fait comprendre, non, je ne me suis pas trompée de personne. Et sois qui tu es et je serai avec toi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu ne nous demande pas d'être des perroquets et de copier sur une autre personne, mais Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. J'avais aussi personnellement besoin de vraiment recevoir une parole de Dieu. Et je pense que vous et moi, c'est quelque chose, c'est un principe que nous ne devons surtout pas négliger. Nous devons recevoir une parole de Dieu pour nous dans nos situations. Dieu est capable de nous parler à nous individuellement et de nous donner vraiment la parole qu'il faut. Et nous étions dans un culte de famille avec nos filles. Et j'avais dit au Seigneur, écoute Seigneur, moi il faut que tu me parles, mais par quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de la situation que nous vivons et de la demande qui est là. Et puis, lors du culte de famille, une de nos filles a ouvert son carnet de versets. Et puis, moi, je me disais, ouais, elle va encore me citer un verset, Jésus t'aime, quelque chose de ce goût-là. Mais voilà qu'elle lit le verset, voici, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, ok, Seigneur, ok, j'ai pas besoin de chercher plus loin, tu m'as convaincue et tu m'as parlé à moi. Alors, dans toutes vos situations, je voudrais vraiment vous encourager, recherchez dans la parole que Dieu a pour vous. Au début de notre mariage, la première année, nous étions toujours en Belgique les premiers mois, et deux professeurs de l'école biblique sont venus à Bruxelles, et Walter voulait les rencontrer. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas beaucoup le milieu apostolique. Et là, il y avait un prophète et un apôtre. Ils travaillent comme ça dans l'église apostolique. Et puis, ces chers frères ont prié pour nous. Et ils nous ont donné une parole que je n'ai pas comprise tout de suite, mais que j'ai comprise après en venant à Genève. Le frère nous a dit, vous allez marcher dans des chemins anciens. Qu'est-ce que ça voulait bien dire ? Marcher dans des chemins anciens. Et après quelques temps, ici à Genève, cette parole est revenue à mon cœur. Et c'était en effet ça. Parce que l'église de Genève, l'église de réveil, a été la première église de réveil. Et bien avant, eh bien Dieu m'avait donné, nous avait donné une parole. Vous marcherez dans des chemins anciens. Alors c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu et d'écouter ce qu'il nous dit. Mais le Saint-Esprit est aussi là pour nous rappeler ce qu'il nous a dit. C'est quelque chose de formidable que de servir Dieu et d'être à son écoute. Au début que nous étions ici aussi lors d'un culte, il y a une parole qui est venue très fort sur mon cœur et que j'ai serrée et que j'ai gardée. Cette parole disait, la bénédiction que je vais envoyer, ça ne va pas venir comme un torrent, quelque chose qui bouleverse tout, mais comme un fleuve tranquille qui vient, qui nous touche d'abord aux chevilles, qui nous touche aux genoux, qui nous touche aux hanches et qui nous permet plus tard de nager. Ce n'est pas en bousculant tout que l'on peut faire avancer les choses, mais c'est en étant attentif à la voix de Dieu et à son esprit que les choses peuvent aller de l'avant.
Lorsque je suis venu au conseil pour me présenter, et c'était en 1998, je crois, j'ai simplement dit ce que nous avions fait à Vevey et ce qui avait apporté du résultat, du fruit à Vevey, ce qui était en fait au fond de nos cœurs. Et lorsque j'ai apporté les quatre lignes de force que nous avions construites à Vevey, eh bien cela a tellement touché le conseil que dans les candidats de l'époque, eh bien, c'était ça que l'Église ici désirait. Nous avions dit, j'avais dit, que nous motivons le travail parmi les enfants, nous motivons la vie de prière, nous motivons l'évangélisation et nous donnons une impulsion forte pour la mission. Ces quatre points ont été, ces quatre choses qui avaient marqué notre temps à Vevey. Et ces quatre choses, peut-être après 20 ans de recul, vous pouvez dire, peut-être qu'on peut constater qu'effectivement ce sont des choses que Dieu a mis dans nos cœurs et que nous avons continuellement mis en avant dans notre ministère ici. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions demandé, vraiment demandé, que nous puissions habiter dans la maison. Et cette demande était très fortement sur mon cœur, ça n'a pas été simple d'organiser tout ça, de faire cela. Il y avait aussi des crispations, des tensions là autour. Mais j'ai réalisé une chose, combien ce calcul de nous avoir dans la maison était un véritable bénéfice. Nous étions apparemment le premier couple pastoral à venir habiter ici, sauf peut-être un stagiaire qui est resté quelque temps ici auparavant. Mais quand je pense à tout ce qu'on a économisé comme stress, comme perte de temps gagnée au travers des la circulation, etc., eh bien, ça a été extrêmement bénéfique de pouvoir habiter dans la maison et nous sommes très reconnaissants pour cela. Par contre, je dois dire qu'il y avait quelqu'un qui était plus que furieux que nous habitions ici. Quelqu'un était vraiment fâché. Quelqu'un était vraiment hors de lui. C'était le diable. Ah, ça, je peux vous dire. Dès la première semaine que nous étions là, nous étions encore dans nos cartons, il y a eu un déchaînement de choses qui était juste impressionnant. Dans le premier mois, dans les deux premiers mois, c'était quelque chose qui était littéralement déchaîné et qu'on n'a plus du tout vécu de cette manière dans la suite. Et je vous prends un exemple. De toute façon, ces personnes ne sont plus dans la maison, elles sont pour la plupart même décédées aussi. Il y avait une personne qui, après quelques jours, on était encore en train de nous installer, est venue nous sonner à notre porte, une personne qui habitait à l'étage en dessous. On ne l'avait jamais vue, on ne savait pas quel était son nom, on ne savait pas qui c'était, elle venait sonner à notre porte. Et sans nous dire bonjour, sans rien, elle a commencé à nous insulter. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Vous faites du bruit. Elle commençait à nous insulter. Elle n'a jamais cessé de nous insulter jusqu'à son départ. En plus de ça, on ne pouvait pas la faire sortir de la maison pour différentes raisons. Mais nous avons prié et elle est partie. Une deuxième personne était littéralement manipulée par le diable pour nous, entre guillemets, nous pourrir la vie ici. Et j'ose le dire, puisque cette personne non plus, elle n'est plus là. Et pour vous dire aussi, quand le diable est là, c'est une réalité pour nous décourager et nous déstabiliser. Cette personne venait à sonner à notre porte, téléphoner en pleine nuit, et beaucoup d'autres choses qui ont duré des mois. Également une personne qu'on ne pouvait pas sortir, mais nous avons prié. Mes amis, je sais que par ces expériences-là, la prière, c'est une puissance. C'est vraiment une puissance. Quelque chose ne bouge pas. Quelque chose est incapable d'être, incapable de changer. La prière change les choses. Et ces personnes ont eu leur temps. Nous étions éprouvés, nous étions parfois écrasés de découragement et rendus un peu nerveux aussi par ce genre d'expérience. Mais nous avons vu que Dieu, finalement, ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et c'est lui qui a eu le dernier mot. C'est lui qui a eu le dernier mot. Alors, encore une petite anecdote.
À Chailly, où nous habitions, nous étions dans un village bien vaudois, au milieu des vignes. Depuis la fenêtre de ma cuisine, je voyais les vignes, le lac et le Gramont, juste en face. En arrivant ici, au 7e étage, quand je regardais par la fenêtre, je voyais des toits, encore des toits et toujours des toits. Mais il y avait un avantage. Chaque fille avait sa chambre. Et c'est vrai, comme l'a dit Walter, le fait d'être dans la maison, on a évité bien des embouteillages, des pertes de temps. On a économisé beaucoup de choses quelque part. Et puis, on avait un gros avantage. C'est que pour venir au culte, il suffisait qu'on pousse sur un bouton et l'ascenseur venait nous chercher. Et on pouvait descendre. Tout déménagement n'est jamais facile pour les enfants. Ils perdent leurs amis, leur environnement. Après la première année ici à Genève, une de nos filles, qui avait bien travaillé à l'école, on lui a dit « on voudrait te récompenser ». Elle a dit, elle nous a regardé, elle nous a dit « je voudrais bien rentrer à Chailly ». Mais ça, ce n'était pas possible. Et c'est vrai qu'afin de mieux comprendre aussi Genève, sa mentalité, à ce moment-là, la ville de Genève offrait une formation pour que les mamans qui avaient élevé leurs enfants se remettent à niveau. Et j'ai fait cette formation pendant 2 ans. Et je suis aussi reconnaissante pour cette possibilité de rencontrer d'autres personnes que des personnes du milieu chrétien.
Tout à l'heure, elle va encore nous dire quelque chose, notre génie. Je voudrais bien sûr remercier d'abord ma famille. Une de nos filles n'est pas là puisqu'elle habite en Amérique du Sud, elle habite en Guyane française. Mais Anne-Christelle est là, elle habite à Londres, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, et puis Lydie est là également. J'aimerais remercier ma famille pour d'avoir été d'accord de suivre un homme passionné pour ce qu'il fait. Parce que, voyez-vous, un appel, c'est quelque chose de personnel. Votre conjoint, mon épouse, dans le mariage, vit l'appel avec vous. Elle entre dans l'appel, elle complète l'appel, elle soutient l'appel, elle soutient le ministère. Elle appuie et elle comprend ce que cela veut dire que de servir Dieu en tant que pasteur. Mais pour les enfants, ce n'est pas pareil. Les enfants suivent, les enfants respectent, les enfants suivent simplement. Et ce n'est que notre témoignage de vie qui peut les aider à adhérer à la foi que nous vivons, nous, en tant que parents. Et c'est ainsi que je voudrais les remercier. Merci à Lydie, merci à Anne, merci à Sarah qui regardera la vidéo pour votre OK et votre d'accord de suivre ce style de vie, quoi qu'il ne soit pas un style de vie excentrique et bizarre, mais un style de vie consacré à l'œuvre de Dieu, c'est quand même quelque chose qui vous prend. Voyez-vous, ce n'est pas un métier comme cela, c'est quelque chose qui vous prend jour et nuit, qui vous prend en permanence. C'est un appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne peut pas s'expliquer, qui est difficile à comprendre, qu'on a au fond de son cœur. Et dans la famille, eh bien, le soutien, le support et l'encouragement est tellement nécessaire. Je l'ai reçu et je le reçois dans la famille. Et même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, nous sommes restés unis et je bénis Dieu pour cela. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais maintenant, au travers de ces quelques mots qui vont apparaître les uns après les autres, vous donner juste ce que j'ai pensé pour ce matin être d'un côté un résumé, d'un autre côté des points forts qui sont pour moi des lignes de force dans le service pour Dieu. Et je pensais à ce texte, tout d'abord, où l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, il va dire « Je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Quelle grâce! Mais quand Dieu ordonne quelque chose, il donne. Quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu demande quelque chose, il donne les moyens pour. Et cela a été... ça a été jusqu'à présent mon expérience. Et le premier mot que j'aime mettre, c'est le mot rencontre. Pourquoi rencontre ? Parce que tout commence avec une véritable rencontre avec Dieu. Au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer comme force dans un travail, dans une vision, dans une stratégie, avant tout, il y a la rencontre avec Dieu. Jésus va dire : ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il y a donc ce choix qui vient du ciel, ce choix surnaturel, ce choix qui vous saisit. Et l'apôtre Paul va dire « j'ai été saisi », je peux dire la même chose, « j'ai été saisi ». Et cette rencontre avec Dieu, cette communion avec Dieu, c'est la toute première chose qu'il faut préserver et que par la grâce de Dieu, je veux préserver jusqu'à mon dernier souffle. Garder cette relation avec Dieu, cette communion, permettez à l'attraction du Saint-Esprit d'être plus forte que toutes les autres attractions. Permettez à l'attraction divine dans votre cœur, cet appel qui résonne au fond de nous, cette voix qui est là et cette main de Dieu qu'on ne peut pas enlever comme ça, permettez à cela de ne jamais s'éloigner de votre vie. La chose la plus triste, c'est des gens qui ont connu cela et qui l'ont abandonné, et qui ont laissé le découragement ou les déceptions de vie les a plus ou moins poussés à abandonner cette relation avec Dieu. Laissons l'attraction du Saint-Esprit être plus forte que toute autre attraction. C'est le fondement sur quoi repose tout le reste. Ne jamais perdre ce que j'appellerais rester renouvelé dans cette relation, rester renouvelé dans cette action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans cette rencontre. Deuxième mot, c'est la Bible. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque je suis parti au Danemark à l'école biblique, j'avais 24 ans. Je venais donc de terminer mes études et une carrière me souriait. C'était dans les années 77-78 où il y avait le plein emploi, surtout dans la région liégeoise, avec la sidérurgie qui tournait à plein régime. Et abandonner ça, juste pour connaître la Bible, c'était ça ma raison. Je ne suis pas parti à l'école biblique parce que j'avais un appel pastoral. Non, je suis parti juste pour... Je voulais connaître la Bible, cette Bible que nous n'avions pas à la maison, que je n'avais jamais vue jusqu'à l'âge de 21 ans. Pas de Bible, jamais vue, jamais entendu parler. Et cette Bible... Cet amour pour la parole, c'était ça la première raison. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas perdu l'amour pour la Bible, 40 ans plus tard. Ne perdez jamais l'amour pour la Bible. Ne perdez pas l'amour pour la parole, qui aujourd'hui, parfois, est lu à la légère. On se contente de quelques versets, on regarde que... que ce qui nous arrive un petit peu sur nos portables, dans nos connexions. Et frères et sœurs, lorsque la Bible n'est plus le pain de vie, les gens commencent à s'ennuyer. On s'ennuie et on zappe sur autre chose. Il faut que la Bible reste le pain de vie, le pain de vie pour nos cœurs. C'est ce que je voudrais vous transmettre. Faites de votre Bible un pain de vie. Soyez nourris. Dites comme les disciples, « Seigneur, on voudrait toujours ce pain de vie. » C'est ce qu'il disait dans Jean 6. « Seigneur, donne-nous toujours ce pain de vie. » Pain de vie. Pain de vie. Donc c'était ça, pour moi, les éléments de base. Le troisième mot, qui était à l'époque quelque chose qui était écrit en grand, en lettres majuscules. La parole de Dieu dit dans l'Ecclésiaste, un texte qu'on ne lit pas souvent et qui pour moi a été un texte basique. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Combien de fois les gens cherchent midi à 14 heures, à mon avis. On cherche un appel, on cherche à faire quelque chose. Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu peux faire des choses, tu peux faire 1000 choses. Il suffit de commencer. Commencez quelque part. Oui, mais je ne trouve rien. Commence quelque part. Commence quelque part. Tout le monde peut commencer quelque part. Tout le monde, sans exception. Même si vous avez peu de formation ou pas de formation, tu peux commencer quelque part. Pour moi, ça a été fondamental. Avant de trouver vraiment la vocation profonde que Dieu avait mise dans mon cœur, et j'ai mis des années pour qu'elle trouve sa place, son assise dans mon cœur et dans ma vie tous les jours, il y avait ça. C'est pour ça que j'ai servi dans tout ce qui se présentait, j'ai servi, dans tout. Et mon premier défaut que j'ai remarqué à Vevey, c'est que je faisais tout et que tout le monde s'éloignait quand j'arrivais, parce que je savais faire, je faisais. Alors j'ai dû apprendre de laisser la place et de déléguer, bien sûr, et de laisser les autres prendre leur place. Le service, c'est commencer quelque part. Souvent on m'a dit, Walter, il ne faut pas tomber dans l'activisme, mais... C'est quoi ce mot activisme? C'est pour moi un mot inconnu. C'est inconnu. Activisme. Si vous êtes activiste, Paul était un activiste avant vous. Paul était très actif. Il disait même qu'il travaillait jour et nuit. Et l'activité, dit les proverbes, c'est aussi le bonheur pour l'homme. Une activité. Il faut prendre plaisir à son activité. Il faut aimer son activité. Et quand vous aimez quelque chose, vous pouvez travailler beaucoup sans devenir abruti par le travail, sans devenir fatigué moralement par le travail. Ce qui fatigue aujourd'hui, ce n'est pas la fatigue physique avant tout. Ce n'est pas avant tout des ouvriers de chantier ou des bûcherons qui font le plus de casses nerveuses ou de burn-out. C'est des personnes qui portent des soucis et qui sont sous pression. C'est ceux-là qui craquent. Frères et sœurs, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais il faut enlever la pression. Il faut éviter de se mettre la pression et il faut sortir de ce qui pousse dans la pression pour autant que cela soit possible. Moi, je pense que le chrétien peut faire beaucoup de choses. Et une église comme la nôtre ne doit pas être une église qui se contente de deux, trois choses dans la semaine. Une église comme la nôtre, elle doit avoir quantité d'activités. Et ma vision a toujours été celle-là, c'est de conduire l'Église dans une multitude d'activités, non pas de l'activisme, parce que ce mot-là, je vous l'ai dit, il était inconnu dans mon vocabulaire, et faire dans des activités qui portent du fruit. Et si l'Église de réveil aujourd'hui porte du fruit, c'est parce qu'il y a des activités qui ont été bénies par Dieu. Et ces activités, s'ils n'avaient pas été initiées, eh bien, il y aurait des manques et des vides aujourd'hui qui ne pourraient pas apporter du fruit. C'est parce que nous avons des activités, c'est parce que nous avons des choses que nous avons faites, parce que Dieu nous les a montrées et nous sommes rentrés dedans, qu'aujourd'hui il y a aussi des fruits sur toutes sortes de branches. C'est mon vécu, c'est ce que je vous partage ce matin. Lorsque nous sommes dans le service, nous grandissons, nous apprenons, nous trouvons notre appel et Dieu nous fait grandir en maturité. Le mot suivant, c'est l'appel. Bien sûr, parce qu'avec l'activité, vous trouvez votre place. Vous n'êtes pas fait pour faire tout, même si vous avez fait différentes choses. Mais à un moment donné, vient ce que vraiment Dieu vous a mis sur le cœur. Et c'est là que vous portez vraiment votre fruit. C'est là que vous êtes heureux. C'est là que se passe vraiment cette approbation divine dans votre cœur et l'approbation qui vient en retour de l'Église, et les deux ensemble montrent que vous avez un appel. C'est comme ça, l'appel, confirmé par l'Église, confirmé par les fruits et confirmé par le bonheur intérieur. Le mot suivant, c'est le mot paix, parce que lorsque nous sommes arrivés, et lorsque je me suis intéressé à l'histoire de l'Église de Réveil de Genève, qui est une histoire qui dépasse 80 ans, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a eu des cassures dans le passé. Et lorsque je suis arrivé, on m'a dit très rapidement, tu sais, ici, tous les 10 ans, il se passe quelque chose. Et cette parole m'a tellement intérieurement mis en colère. Je me dis, le diable n'aura plus ce mot-là dans la bouche des gens. Et vraiment, il y a des choses où je voyais des blocages, où je voyais des phrases qui sont terribles. Et vous savez, je vous disais tout à l'heure, la prière change les choses. Le combat spirituel fait bouger ce genre de choses. Nous devons être conscients qu'il y a des combats, qu'il y a, lorsqu'une église porte du fruit, il y a l'adversaire qui se lève pour casser, pour briser, pour stopper. Et nous devons vivre et mener un vrai combat spirituel contre ce genre de choses. Et j'ai dit, au nom de Jésus, ces choses-là seront arrêtées ici. Et ce n'est pas suffisant de juste prier contre quelque chose qui se passe, un conflit, une division, des choses comme ça. Mais il faut encore engendrer la paix, frères et sœurs. Et je crois que c'est une des choses que Dieu m'a données. D'ailleurs, c'était aussi une des choses qui a été vérifiée à plusieurs reprises dans d'autres domaines, c'est que nous devons être des ouvriers de paix. Des ouvriers de paix. Si vous n'avez pas la paix dans l'Église, vous pouvez prêcher les meilleurs messages. Ces messages ne toucheront pas beaucoup les gens. Il faut la paix pour construire. Il faut la paix pour construire. La paix de Dieu doit être poursuivie. Et il est dit également dans un texte qu'il faut chercher et poursuivre la paix, mais dans Éphésiens 4, il est dit qu'il faut conserver l'unité de la paix, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quelque chose à conserver, il faut travailler là autour, il faut se donner de la peine pour ne pas que cette paix s'échappe. Il faut que la paix reste, et dans la paix, nous pouvons aller très très loin. C'est un travail, c'est pour ça qu'aussi au niveau du réseau évangélique, nous travaillons dans cette même dimension de la paix. La paix. Frères et sœurs, soyez des ouvriers de paix. Soyez des ouvriers de paix. Et dans les relations qui sont bien souvent où il y a des malentendus, des situations d'incompréhension, etc., il faut aller au-devant de ces choses pour les régler. Non pas les laisser comme cela, mais il faut chercher à les régler pour se comprendre et prendre les bonnes décisions dans la foi et la prière et dans le dialogue, bien sûr. Le mot suivant, dans cette paix, dans cette construction de cet appel, il y a une chose. Je voudrais que même après mon départ, cette présence de Dieu reste le point fort de l'Église de Réveil de Genève. Cette présence de Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux quand il y a la présence de Dieu et je suis en même temps malheureux quand elle ne me semble pas présente. Cette présence de Dieu qui touche, qui fait son œuvre, c'est capital dans la vie d'un culte, d'une réunion, dans une maison, etc. La présence de Dieu, ne chérissons-la, poursuivons-la, saisissons-la, gardons-la, cultivons-la, aimons et chérissons la présence de Dieu. La présence de Dieu, ayons soif. Le mot suivant est un mot cher à mon cœur, parce que quand on est arrivé il y a 20 ans, il y avait une série de craintes ici et des blocages par rapport au Saint-Esprit. Et lorsque nous avions eu le premier stagiaire ici et nous sommes rendus compte de la même chose, nous vibrions sur la même longueur d'onde et nous avons passé des heures dans cette chapelle dans la semaine à prier pour que quelque chose d'inexplicable puisse se libérer, puisse lâcher prise afin que le Saint-Esprit ait davantage de place. Frères et sœurs, l'Église et dans notre vie doit avoir une grande ouverture au Saint-Esprit. Une grande ouverture au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre et que la vie du Saint-Esprit puisse vraiment circuler au milieu de nous. Construction. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous construisons. Beaucoup d'Églises font l'erreur de copier des recettes qui viennent d'ailleurs. des recettes, des méthodes, des moyens, des orateurs, des séminaires, toutes sortes de choses. Frères et sœurs, Dieu nous dit des choses simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ça au bout du monde. Cherche Dieu et tu le trouves. Cherche la clé pour le lieu où tu es et tu la trouveras. Cherche la clé pour toucher ta ville ou ton quartier ou une population particulière et tu trouveras des moyens pour y aller. Il faut chercher soi-même. Il n'y a pas besoin d'inviter un prophète qui va nous dire ceci ou cela. Il faut chercher Dieu pour soi-même. Je ne suis pas contre les ministères prophétiques. D'ailleurs, nous devons, je pense, nous ouvrir pour avoir tous les ministères, tous les 5 ministères au sein de l'Église de Réveil. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs et d'autres. Des gestionnaires, des organisateurs, des gens qui ont la compassion, le ministère de prière, de délivrance, toutes ces choses doivent être au milieu de l'Église. Mais nous voulons construire avec la diversité la plus grande. La vision de l'Église, celle que je porte sur mon cœur, et je ne sais pas comment ça va se poursuivre dans la suite, dans quelques années, mais c'est d'avoir un large spectre d'activités et une vision large pour toucher le maximum. Matthieu 28 nous le dit, allez par tout le monde annoncer l'Évangile. Et pour, on ne sommes pas seulement appelés à toucher une partie, une catégorie de personnes, mais nous sommes appelés à avoir un spectre large pour toucher tout et tout le monde. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit nous a donné justement pour cela, justement pour cela. Et pour cela, pour construire, nous devons avoir le travail, la force, mais aussi la foi. Je voudrais que l'Église de Réveil soit une Église de foi, connue pour sa foi. Nous avons la foi, la confiance, même d'entrer dans des choses que nous ne connaissons pas encore, mais nous voulons oser prendre des chemins nouveaux, sans trop tarder et avoir tous les outils déjà à disposition ou toutes les réponses. On n'a pas besoin de toutes les réponses. On peut avancer avec la force qu'on a, avec la vision qu'on a. Et après, Dieu montrera la suite. Frères et sœurs, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi dans cette vision jusqu'à présent. Et un principe important dans la construction, c'est que la construction, c'est un projet de vie et la vie doit précéder la structure. On ne met pas d'abord une structure coûteuse en place pour un projet. On voit d'abord où se trouve la vie et après on met la structure simple autour. C'est comme ça que nous voulons également faire lorsque nous démarrerons sur Rive Gauche. Eh bien, nous voulons que la vie aille là-bas et envahisse le quartier d'abord. Et après, on trouvera bien la structure qui va avec. Ça, c'est la vision biblique, à mon avis. Le travail est extrêmement important. Je n'ai pas peur de dire à certains pasteurs aujourd'hui que s'ils veulent que leur église grandisse, il faut qu'ils travaillent plus. Je ne dis pas ça en disant qu'il faut négliger les autres choses. Mais si vous voulez construire une église en faisant uniquement un culte du dimanche matin et une réunion de prière, vous n'allez pas vous étonner qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce travail, où l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Applique-toi de tout ton cœur et sois tout entier à ton ouvrage. » Il dit, « Rappelle, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre. » Je ne dis pas que c'est pour tout le monde la même chose. On n'est pas tous égaux face à l'activité. On n'a pas tous les mêmes forces, les mêmes ressources. On n'a pas tous les mêmes ressources physiques ou mentales, mais le travail est extrêmement important pour arriver à quelque chose. Attache-toi à l'appel reçu, avec patience et avec persévérance. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Genèse 49 nous dit ceci. C'est une prophétie que Jacob va donner sur Joseph. Il va dire, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. » Ce verset m'a toujours parlé. L'Église de Réveil est un arbre dont les branches s'élèvent au-dessus des 4 murs de ce lieu. Les branches chargées de fruits vont jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, gardez toujours cette vision que notre travail, notre prière, notre vision doit être une vision, je dirais, mondiale. Une vision large, une vision étendue. Nous pouvons atteindre par notre message, par notre exemple, par notre vie avec le Seigneur, nous pouvons attendre. Avec les dons reçus, nous pouvons atteindre beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et je vous demande de croire et de soutenir le ministère média que nous avons. Soyons une église dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je vous remercie également de me laisser partir en mission de temps en temps. Et si possible, avec d'autres, que nous soyons ensemble pour bénir d'autres nations, d'autres personnes. Je voudrais laisser la place à Jenny et puis je dirai mon dernier point juste après.
Un domaine dans lequel nous sommes entrés quand nous sommes arrivés à Genève, c'était les camps d'enfants. C'est vrai que nous nous sommes renseignés pour savoir quel était le créneau libre et le créneau de Pâques était libre. Et nous sommes entrés, vous êtes entrés avec nous dans ce créneau. Et je me suis dit, avec une moyenne de 60 enfants par camp, depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 1000 enfants qui sont passés dans les camps d'enfants. Il y avait des enfants qui sont venus de Suisse, bien sûr, de France. Il y en a qui sont venus spécialement d'Italie, de Tenerife et même des États-Unis. On a eu deux garçons qui sont venus et qui sont là pendant plusieurs années. Merci d'être entré dans cette vision. Merci de venir avec nous dans ces camps d'enfants. Par qui vous êtes, par vos prières, par votre aide. C'est vrai que chacun doit se sentir accueilli dans la maison du Seigneur, du plus petit au plus âgé. Ensemble, nous formons le corps de Christ. C'est vrai que nous avons mis sur pied aussi la formation pour le travail parmi les enfants et nous le faisons en équipe. Nous avons aussi eu à cœur les femmes de pasteurs. Les pasteurs se réunissent très souvent, mais les femmes de pasteurs sont plutôt dans l'ombre. Et à plusieurs reprises, nous avons organisé des réunions pour femmes de pasteurs, un endroit où elles pouvaient se sentir bien, partager un endroit d'écoute. La journée missionnaire aussi, elle va bientôt arriver. Alors si vous avez des talents, mettez-les au service de la mission. Vous pourrez bénir des enfants. Les réunions de femmes aussi ont repris un essor. Le culte de reconnaissance, des fois on oublie que tout ce qu'on a sur nos tables, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et c'est bon de se rappeler les bontés de l'Éternel. Pour le travail parmi les enfants, il nous faudrait pousser les murs. Mais ça viendra peut-être. Il y a aussi les aînés. Quel honneur que de pouvoir les servir une fois par mois. Chacun arrive à son rythme à cette réunion, avec ses petits soucis, avec ses petits tracas, mais tous repartent heureux et reconnaissants. Alors merci pour nos aînés qui sont là. Souvent, quand je marche dans les rues de Genève, je prie et je dis, « Seigneur, donne-moi ton amour pour cette ville. Donne-moi ton amour pour ses habitants. Que ton nom soit connu et reconnu. Que ta maison soit la bergerie où chacun se sent accueilli et que nous soyons chacun le reflet de Jésus. Il y aurait encore bien des choses à se souvenir, des joies et des tristesses. Par moments, regardant en arrière, j'ai l'impression qu'il me manque des années, que j'ai loupé certaines choses, mais que toute la gloire revienne à notre Dieu pour sa grande fidélité, sa grâce, dans nos vallées, car il est là, dans nos sommets, il est là aussi. Mon mari l'a fait, mais je voudrais aussi remercier nos filles pour qui elles sont. Chacune a trouvé sa voie. Que Dieu les bénisse et les dirige. Merci à vous tous. Et ma prière, c'est que vos yeux soient toujours fixés sur Jésus. C'est lui notre modèle. Quand nous nous engageons avec Dieu, lui s'engage avec nous. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. J'ai dans ma cuisine un petit texte et je voudrais vous le passer. C'est vrai que pour demain, je ne sais pas ce que sera demain. Mais une chose est certaine. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter pour demain. J'ai la grâce de Dieu seulement pour aujourd'hui. La grâce pour demain n'existe pas encore. Mais Dieu sait, et je sais qu'il pourvoira, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Dans les petits détails de la vie, que c'est beau de découvrir la main de Dieu, que c'est beau de voir la fidélité de Dieu, dans des petites comme dans des grandes choses. Nous servons un grand Dieu, que jamais vos yeux ne le quittent des yeux, que vos yeux soient fixés sur lui, parce que c'est lui qui est fidèle, qui est juste et qui est bon. Soyez bénis.
Amen. Est-ce que tu peux mettre juste, je voudrais vous montrer, vous rappeler un peu le visage des stagiaires qui sont passés. Le premier stagiaire que nous avons eu la grâce d'avoir, c'était à Vevey. Pierre Yélémou, qui a fait une formation avec nous en 1989, est actuellement pasteur principal de l'église du Centre chrétien d'évangélisation à Ouagadougou, le quartier Patedois, avec toute une série d'annexes. Il fait un merveilleux travail là-bas avec son équipe et son épouse, leur fille, Pierre Lémou. Ensuite, nous avons eu la famille tellement aimée, les Kim. Ils sont pasteurs à Atlanta en ce moment, depuis de nombreuses années. Mathieu qui a été avec nous de 2002, ici à Genève, 2002-2005. Il a été ensuite pasteur à Yverdon, 10 ans, environ 9-10 ans. Et puis, après 3 ans au Québec, il est actuellement, il démarre l'œuvre à Bordeaux. Michel, la famille n'est pas complète. J'ai trouvé vite fait une photo ce matin. Michel, 2006-2010, pasteur depuis 2016 à Lausanne-Riponne. Luc et sa grande famille, ils ont 5 enfants. Ils sont à Yverdon depuis 2016. C'était donc un stagiaire de 2012 à 2015, je crois. Voilà. Et puis Nicolas, qui est donc pasteur avec nous, Nicolas et Mélodie. Gloire à Dieu pour ces 6 pasteurs qui fonctionnent. C'est une grâce, vraiment. Voyez-vous, la formation d'un stagiaire, ce n'est pas un homme qui fait ça, c'est une église qui s'en occupe. C'est que nous avons ce privilège d'être une église d'une taille certaine qui permet la formation des jeunes. Et combien je suis reconnaissant d'avoir pu mettre ma main dans ce travail de formation des stagiaires. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous êtes resté bien sage sur vos bancs. Je voudrais juste prier, rendre gloire à Dieu avec vous tous pour sa merveilleuse présence. Il n'y a pas de plus grande joie quand je vois l'Église louer Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur dans mon cœur que de voir l'Église répondre à l'appel de Dieu. Que l'Église qui s'adresse à Dieu, qui prie, qui rencontre le Seigneur, c'est là mon désir le plus grand. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour, en ce matin, juste, Seigneur, ouvrir ta parole, mais aussi ouvrir nos cœurs et regarder en arrière par ce parcours, Seigneur, parcours de vie qui est si peu de choses par rapport à une vie humaine, qui est si peu de choses par rapport à une génération, qui est si peu de choses par rapport à l'éternité. Mais Seigneur, le temps que tu nous donnes est un temps de grâce. Nous voulons racheter le temps et bien l'utiliser. Seigneur, et j'espère que ces 20 années ont été bien utilisées, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te rendre gloire pour toute l'Église. Je prie que pour chaque personne ici présente et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin et ceux qui sont connectés avec l'Église de Réveil, Seigneur, avec tous les enfants, nous sommes plus de 1000, Seigneur, et ensemble, tous ensemble, Seigneur, nous disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne ment jamais, qui ne trompe pas, le Dieu qui soutient, qui est fidèle, le Dieu qui aide, le Dieu qui équipe, le Dieu qui donne lorsque nous sommes vidés, Seigneur, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui fait des miracles, qui guérit, qui restaure. Ce Dieu merveilleux, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir et de marcher avec toi, avec une vision renouvelée pour la vision pour l'avenir. Seigneur, nous sommes là tous ensemble pour nous tenir les coudes et marcher main dans la main, Seigneur, dans la même direction. Seigneur, avec foi, avec confiance. Seigneur, je prie que ce matin, il y ait la foi dans les cœurs. Je prie que ce matin, il y ait la louange dans les cœurs. Je prie que ce matin, il y ait vraiment ta visitation l'action du Saint-Esprit dans chaque cœur, Seigneur. Merci parce que la vie du Saint-Esprit, c'est une vie pleine. C'est une vie, Seigneur, qui donne la plénitude, qui donne la force, qui donne la vie, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour cette vitalité que tu donnes à l'air de Genève, Seigneur. Et que, Seigneur, elle puisse être un arbre, Seigneur Jésus, dont les branches, Seigneur, passent, Seigneur, partout au-dessus de la muraille. Et que des foules, Seigneur, saisissent les fruits, Seigneur, et puissent reconnaître que tu es là, Seigneur. Et que le monde soit béni, Seigneur, par tout ce que nous faisons et que pour tout ce que nous prions également, Seigneur, pour tant et tant de gens. Nous te bénissons de tout notre cœur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup.